RMC, cours numéro 1.
Bienvenue sur cours numéro 1 pour ce podcast quotidien de ce Wimbledon 2026, Day 14. C'était donc la dernière journée. Eh bien, on s'est régalé. On s'est régalé parce qu'on a assisté à une finale assez fantastique, avec un niveau de jeu ultra élevé que personne n'attendait peut-être, parce que on savait que Sinner sur gazon c'était très fort, mais on ne pensait pas que son challenger allait le pousser dans les cordes, parce que c'est ce qui s'est passé. Yannick Sinner est allé conquérir un deuxième titre, mais ça a été très très long à se dessiner, puisqu'on a dû attendre 3h46 exactement, donc pour que Yannick Sinner, d'un coup droit magnifique long de ligne, plante le coup de poignard dans le cœur de Sacha Zverev, 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Beaucoup de regrets pour l'Allemand quand il va prendre un peu de recul, mais aussi la sensation d'avoir assisté à un match de costaud avec des statistiques complètement folles. Alors on est sur gazon, c'est vrai que c'est très dur de breaker l'adversaire, mais là, franchement, pendant très longtemps, les deux joueurs n'ont jamais cédé leur mise en jeu. Il a fallu un break au milieu du troisième set pour que cette série s'arrête. Et c'est Yannick Sinner qui a été le plus efficace, mais il a tremblé. Il a tremblé sur ses bases parce qu'il est tombé sur un joueur qui a livré un match époustouflant, qui a frappé comme un sourd. Alors au service, on le savait, et c'est assez facile de frapper comme un sourd au service, même si tu atteins quand même des vitesses de croisière à 220, 225. Mais ce qui a épaté tout le monde, c'est qu'en coup droit, alors que de temps en temps, on était les premiers à le dire, il poussait la balle. Là, il a voulu frapper le plus fort possible pour déborder Yannick Sinner. Et il y est parvenu à de nombreuses reprises. Alors bien sûr, il y a eu du déchet. Mais au final, il a quand même chahuté l'Italien comme rarement j'ai vu ici sur le central de Wimbledon. Autant l'an passé, Alcaraz l'avait manipulé avec son style. Mais Zverev du haut de ses 1m98, il a livré une prestation folle au service avec des stats, je vous les livre, hein, 76% de première balle. Donc écoutez, c'est quand même assez impressionnant. Alors 72% de points gagnés, c'est moins bien que Sinner. Mais Sinner a servi que 64% de première balle. Le tie-break du premier a été admirable. Beaucoup de suspense. Et finalement, donc c'est comme par enchantement, un coup droit long de ligne de ultra puissant en pleine lucarne de l'Allemand qui a fait la différence. Et là on s'est dit, Sinner va avoir beaucoup de mal à revenir au score, parce que l'Allemand n'a pas baissé de régime. C'est ça qui était impressionnant. La deuxième manche, c'est lui qui a les premières occasions, et on arrive au tie-break du deuxième, et là, eh bien, c'est peut-être le miracle, c'est l'instinct de survie. Alors qu'il avait jusqu'alors, il avait beaucoup de mal à lire le service de son adversaire. Mais Yannick Sinner a tout retourné, que ce soit les premières et surtout les premières et les deuxièmes. Il a tout retourné dans le tie-break. Il s'est détaché très vite 4-0 pour finalement s'imposer 7-2. Et là, on a tout de suite senti que la bascule s'était faite sur ce deuxième jeu décisif, donc qui a permis à l'Italien de se relâcher. Et Zverev, mine de rien, Zverev a pris logiquement un petit coup moral, parce que voilà, il est numéro 2 mondial, enfin il était numéro 3, il va passer 2. Et mine de rien, Zverev il a pris un petit coup moral, parce que il n'a pas pu tenir la cadence folle au service. En coup droit, il a eu un peu plus de difficultés. Il faut les traîner aussi, ces 198 cm, par rapport à un Sinner qui, lui, ne faiblissait pas. Et c'est ça qui était impressionnant. Il a une résilience incroyable et il a tenu sa mise en jeu de bout en bout. Donc, sans jamais craquer, même s'il a eu une alerte au milieu du troisième, puisque la première balle de break pour Zverev a été déterminante. Mais là, il a été costaud, l'Italien. Beaucoup de sang-froid, avec une amortie distillée qui a provoqué une glissade de Zverev sans conséquence. Même si sans conséquence, attention, il s'est fait un peu mal au genou, il l'a dit. Sa qualité de service a baissé dans la foulée. Mais le fait d'avoir sauvé cette balle de break, ça a redonné du mordant à l'Italien. Et c'est lui qui a creusé l'écart dans cette troisième manche pour finalement donc s'imposer ensuite dans le quatrième, 6 jeux à 4, avec un dernier jeu bluffant, puisque sur une amortie de Zverev, il a sorti une contre-amortie venue de nulle part, alors qu'il était à 15-30. Donc là, il y avait danger. Et c'est là qu'on a vu toute la classe de Yannick Sinner qui décroche une victoire au long cours. Avec la durée est intéressante parce qu'on a souvent dit que Sinner ne tenait pas la distance. Il avait connu beaucoup de défaites lors de rencontres qui dépassaient les 3h50. Et bien là, le chrono s'est arrêté à 3h46. Donc il en avait encore, je pense, sous la semelle. Mais ça doit lui faire un bien fou de savoir que voilà, il tient. Il tient physiquement et que le travail paye, puisqu'il avait tellement besoin de ce titre de Grand Chelem après la déception à Melbourne, battu par Djokovic à la surprise générale en demi-finale en 5 contre l'ancien Djokovic, le vétéran. Et puis cette incroyable défaillance au deuxième tour de Roland-Garros face à Juan Manuel Cerundolo en pleine canicule. Un match qui aurait pu laisser des traces, mais on le voit, ce mec sait rebondir. Propos d'écouter quelqu'un qui avait la chance d'être quasiment le nez sur le cours, c'est Marion Bartoli qui travaillait ici pour la BBC, c'est aussi notre consultante, vous le savez, et je l'ai rencontrée une demi-heure après la cérémonie. Elle était encore sous le choc parce qu'elle avait vraiment le sentiment d'avoir assisté à une finale énorme, et elle avait raison, et je vous propose d'écouter parce que c'est super intéressant.
Le niveau déployé par les deux joueurs était extraordinaire. Quand j'ai vu Sacha Zverev frapper ses services comme il les a frappés pendant toute la durée du match, envoyer des coups droits mais monumentaux, dépasser Yannick Sinner en termes de puissance de frappe à de très nombreuses reprises, comme j'ai rarement vu Yannick être en difficulté. Franchement, il a fallu qu'il sorte absolument le grand jeu, mais c'est là où il est monstrueux. C'est quand il a fallu, dans le tie-break du deuxième, pas rater un retour, être sur toutes les trajectoires, il a été. Il y a eu pour moi un point dans le troisième set où c'est Sacha qui a la balle de break en premier sur une deuxième balle de service. Il est juste devant moi parce que ma box de commentatrice est du côté de la Royal Box, à gauche de la Royal Box, donc il est vraiment de ce côté du court devant moi. Il s'avance au retour sur la deuxième balle, il engage bien le retour avec son revers et derrière il va se faire un slice dans l'échange qui l'a fait complètement ralentir le jeu, puis surtout qui lui a fait perdre la position d'avantage. C'est d'ailleurs après ça qu'il est tombé en essayant d'aller vers une amortie vers l'avant. Et la fin du troisième lui a vraiment échappé à partir de ce point-là. Et je pense que s'il refait le match dans sa tête, la micro, peut-être petite erreur qu'il a commise, ça aurait été à ce moment-là. Mais le reste du match, il a été absolument impeccable. Il y allait vraiment avec tout son cœur, toutes ses tripes, et puis surtout cette nouvelle confiance qu'il a désormais depuis qu'il a remporté son tournoi du Grand Chelem à Roland-Garros. Et c'est un autre joueur. Franchement, pour moi, ce qui est fabuleux, c'est que là, il avait vraiment une capacité d'aller challenger Yannick. Alors même si sur les head-to-head ça sera compté comme une défaite, bien évidemment il y a défaite et défaite, et là il se rapproche nettement en termes de niveau, donc c'est fabuleux pour le tennis masculin.
Oui, ça s'est joué sur des détails, et elle a raison Marion, peut-être que Sacha va faire des petits cauchemars sur un ou deux points qui lui ont coûté très très cher, mais bon, au final, quand on regarde les stats, Sinner est devant partout, hein, sauf sur le pourcentage de première balle, mais c'est un garçon qui se déplace tellement bien sur herbe. Alors effectivement, parfois il a été dominé en puissance, mais il a su trouver la parade, trouver aussi comme un peu, on cherche une énigme, à essayer de trouver le meilleur placement possible pour contrer le service de Zverev. Et puis aussi, il avait aussi, je pense, l'ascendant psychologique sur l'Allemand, c'est indéniable. Quand vous avez gagné les 9 derniers matchs, vous vous dites qu'il va craquer, il va finir par craquer. Et c'est ce qui s'est un petit peu passé donc dans la deuxième partie de cette finale. Yannick Sinner, bon, c'était pas de joie, mais on a vu à quelques petites choses que vraiment ce titre, il lui tenait vraiment à cœur. C'est le numéro 5, hein, en Chelem, bien sûr, vous le savez. Et quand il avait la coupe en main et que le stade était en train de se vider, il se dirige avec... il lui porte son sac. Il s'est dirigé vers la petite porte de sortie. Et là, il a pris le temps de se retourner pour contempler ce merveilleux center court. Et là, on a vu un petit sourire. Ça voulait dire beaucoup de choses pour lui d'avoir remporté ce deuxième titre devant ses parents qui avaient fait le déplacement, même s'il a noté que sa maman, qui est très stressée pendant les finales, elle avait fait quelques petits allers-retours pour se soulager, pour déstresser. Il était fier. Et écoutez sa conf. Alors, il est, pour une fois, il est plus intéressant en italien qu'en anglais. Je propose un petit extrait de Yannick Sinner en italien et je vous le traduis juste derrière.
No, innanzitutto c'è tanta felicità. Sono orgoglioso da me stesso, del mio team che mi continua a spingere verso la direzione giusta. E poi io, come ho sempre detto, il lavoro non smette mai, no? perché secondo me ci sono piccole cose che posso fare meglio, dove non vedo l'ora di continuare a lavorare, però in questo momento anche è importante staccare totalmente per una settimana e non pensare al tennis, vivere una vita normale. E poi quando si rinizia c'è tutto il focus di nuovo verso quell'obiettivo.
Alors, in italiano, avant tout, c'est un immense bonheur. Je suis fier de moi et de mon équipe qui ne cesse de me pousser dans la bonne direction. Et puis, comme j'ai toujours dit, le travail ne s'arrête jamais car je pense qu'il y a des petits détails que je peux améliorer et sur lesquels j'ai hâte de continuer à travailler. Mais pour l'instant, il est aussi important de déconnecter complètement, de couper du tennis pendant une semaine et de ne pas penser à la raquette, de mener une vie normale en quelque sorte. Et puis après, on recommencera, on se concentrera à nouveau pleinement sur les objectifs. Bah voilà, il s'accorde une semaine de vacances, c'est aussi l'info de cette conférence de presse en italien. Il en a bien besoin parce que c'est vrai qu'il est sur le pont depuis longtemps, parce qu'il ne faut pas croire qu'après la défaite à Roland-Garros, il s'est tourné les pouces, non? Ils avaient beaucoup de choses à régler, essayer de comprendre pourquoi ça avait coincé à Roland-Garros. Et ensuite, il y a un avis qui est très intéressant, c'est celui de Darren Cahill, qui est venu en conférence de presse, qui a répondu à plusieurs questions de journalistes internationaux et italiens. Et Darren Cahill est toujours très pertinent, il est cash, il joue carte sur table. Et notamment sur le souci de l'apport d'Auteuil, il a dit, attendez, il est rouquin, il vient d'une région au nord de l'Italie où il est plutôt en contact avec la neige, donc le soleil pour lui, c'est pas naturel. Ils ont bossé sur des choses, ils sont très mystérieux là-dessus, mais ils ont apporté des modifs. Et ça, c'est là qu'on voit tout le travail de l'équipe de Jannik Sinner. C'est de la perfection, c'est du perfectionnisme, pardon, et c'est pour ça que Jannik Sinner est toujours aussi costaud. Je vous propose d'écouter en anglais Darren Cahill, parce que, comme je vous l'ai dit, il est franc, il y a eu des coups durs dans la collaboration, et il en parle avec beaucoup de franchise. Écoutez Darren Cahill.
But there's been a few kicks in the stomach along the way. Some tough losses, the match points against Carlos the previous year, what happened to him, and Roland-Garros this year. But probably what makes us the most proud of him and working with him is the way he comes back from those. It doesn't put him down for too long. Obviously, he's disappointed after those moments. But it's a day later, we get a phone call. All right, boys, what are we doing? Let's get back on the court. What are we working towards? What's the plan? Where are we going? And what do we need to do to get better? And that's his attitude in tennis, and it's his attitude in life. And that's why he's so great to work with. And we spoke about his resilience in those moments, being able to come back and be bigger and stronger and faster whenever he has a bad moment. And in this final, he needed that to get through this match because he was tested badly against Zverev today and he showed amazing resilience. So if you don't have those tough moments, maybe you never grow like he's been able to grow. So we look at it as a big positive in his personality.
Jannik would respond just mentally or if anything would change in terms of how he reacts to being the number one guy and not having someone else maybe to measure up against. I wonder if you guys had thoughts on that.
Alors je traduis donc les propos de l'Australien. Et il y a eu quelques coups durs, hein, quelques coups de canif en cours de route durant notre collaboration, des défaites difficiles, les 3 balles de match contre Carlos Alcaraz l'an passé à Roland, ce qui lui est arrivé aussi à Roland cette année. Mais ce qui nous rend sans doute le plus fier de lui et de notre collaboration, c'est la façon dont il rebondit après ces épreuves. Ça ne l'abat pas trop longtemps. Évidemment, il est déçu après ces moments-là, mais dès le lendemain, on reçoit un coup de fil. Allez les gars, qu'est-ce qu'on fait? Retournons sur le court. Vers quoi on travaille? C'est quoi le plan? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'améliorer? C'est son attitude au tennis, c'est aussi son attitude dans la vie. Et c'est pour ça que c'est un plaisir de travailler avec lui. On a parlé de sa résilience dans ces moments-là, de sa capacité à rebondir et à revenir plus fort, plus solide et plus rapide après chaque passage à vide. Fin de citation. On en a eu l'illustration. On mesure maintenant que l'élimination à Roland a été un petit traumatisme, qu'elle a amené le doute dans l'équipe, qui a dû revoir un peu sa programmation. L'an passé, ils avaient joué Halle, ils n'ont pas joué. Ils s'attendaient à une entrée de tournoi difficile, ça a été le cas contre Kecmanovic, où il était mené deux manches à une, je vous rappelle. Mais finalement, il termine comme un avion. Parce que sur les 2 derniers matchs, donc la demi contre Djoko et cette finale contre Zverev, il n'a pas été breaké une seule fois, il n'a concédé que deux balles de break. Quand vous pouvez vous appuyer sur un service et quand vous savez que derrière, vous avez pratiquement le meilleur jeu de fond de cours du monde, bah, le titre, évidemment, il vous tend les bras. Et en plus, vous êtes capable d'amener de la variété avec des amortis qui étaient bien sentis. Bon, service volé, pas trop. Simone Vagnozzi, qui était en conf avec Kyle, l'a déploré un petit peu. Il y en a eu un, je crois, de mémoire. Mais il y a eu très belles choses. Il y a eu des montées au filet qui l'ont permis de finir avec des stats dans le vert, puisque au filet, il termine, je vérifie, avec 78% de points gagnés. 18 sur 23, bah voilà, ça veut tout dire. Le garçon s'étoffe, le garçon est de plus en plus complet, et donc le voilà à 5 grands chelems. Il a grignoté sur Carlos Alcaraz, qui était le grand absent des deux derniers grands chelems. Maintenant, on va voir ce que va donner l'été. Et puis on va voir comment aussi Zverev va tenir ce nouveau statut, parce que comme l'a dit Marion Bartoli, Zverev, on nous l'a transformé. Son agressivité aujourd'hui était carrément bluffante, presque effrayante. Il frappait comme un sourd pour ceux qui n'étaient pas sur le stade, parce qu'à la télé ça rend moins bien, mais je peux vous assurer qu'il frappait comme un sourd, et Sinner a vraiment dû se battre, lutter pour déjà parfois remettre les balles de manière assez acrobatique, mais au final voilà, il a eu gain de cause. Je voulais aussi attirer votre attention sur le classement, parce que il y a des petites modifications. Il y a le classement de la race, donc, qui est très intéressant au 14 juillet, puisque là, on a eu 5 Masters 1000 qui se sont joués et 3 Grands Chelems. Donc la situation, elle est là. Premier, Sinner, 7950 points. Deuxième, Zverev, 6540. Alcaraz est troisième sur le podium, 3650. Il y a quand même un petit gap, vous le notez, mais c'est normal, il n'a pas joué. Quatrième, Koboli, 3020. Cinquième, Medvedev. Sixième, Djoko. Septième, Félix Auger-Aliassime. Huitième, De Minaur. Neuvième, Shelton. Et dixième, là c'est intéressant, Arthur Fils, 1940 points. C'est-à-dire qu'Arthur Fils, même malgré son élimination au deuxième tour, reste totalement dans la course pour le Master de Turin. Et donc, tout va jouer sur la tournée aux États-Unis et au Canada, et puis évidemment la tournée asiatique avec le clap de fin à Paris La Défense Arena. Ça nous promet une belle lutte, parce que bon, Sinner, Zverev sont largement devant, je crois même qu'ils sont déjà qualifiés pour le Master, ça fait aucun doute, mais on a hâte de voir ce que va donner la meute derrière, en sachant que Sinner n'a pas donné d'informations sur sa participation éventuelle à Montréal, en sachant qu'il a un challenge incroyable à relever. Il a gagné les 5 premiers Masters 1000 de l'année. Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid et Rome. Je pense que dans un coin de la tête, t'as le grand chelem qui trotte. Tu te dis pourquoi pas laisser une nouvelle trace dans l'histoire. Maintenant, comme il l'a dit, prend une semaine de repos. Ça paraît plausible qu'il joue au Canada, puisque c'est du 2 au 13 août. Maintenant, il faut qu'il fasse attention à pas trop charger la mule. Parce que derrière il y a Cincy, puis après il y aura l'US Open, qui est toujours un tournoi très particulier avec ses conditions météo où là on peut avoir beaucoup de chaleur et de l'humidité, qui est un cocktail absolument affreux, je vous le confirme, pour les tennismen. Je m'en souviens comme si c'était hier, mais l'année où Roger Federer est sorti par John Millman en night session à New York, ce jour-là il y avait un taux d'humidité de 80%, et c'est la première fois que je voyais presque le Suisse défaillir sous nos yeux, parce qu'il ne pouvait plus se déplacer normalement. Il avait été cueilli par, pas par un coup de chaud, mais par les conditions qui étaient apocalyptiques là, pour New York cet été-là. Voilà, écoutez, on a tout dit, on s'est régalé, on a vécu une belle quinzaine. Bon, ça a manqué un peu de présence française dans la deuxième semaine, même si, coup de chapeau, Kristina Manović a remporté le double dames avec sa copine chinoise, Gao, magnifique victoire en 2-7 sur le center court en apéritif de la finale des hommes. C'est son premier Wimbledon en double dame, son 7e majeur. Elle était très émue parce que, pour ceux qui ne le savent pas, elle avait eu une sale blessure l'an passé. Elle avait suivi Wimbledon de son canapé avec des béquilles, et elle racontait en conférence de presse avec beaucoup d'émotion que elle devait être assistée pour les tâches les plus élémentaires, à savoir la douche, les toilettes, et que elle rendait hommage aussi à son frère Luca, qui l'a soutenue, qui a toujours cru en elle, était convaincue qu'elle pourrait revenir au plus haut niveau. Elle l'a montré aujourd'hui en étant la patronne sur le gazon londonien. À 33 ans, c'est beau, ça va lui donner vraiment de l'appétit pour aller chercher un titre à l'US Open, pourquoi pas, avec cette joueuse chinoise avec qui elle a débuté seulement à Auckland en début d'année. Donc c'est vraiment une association toute fraîche. Et ben, on est content d'avoir... on n'a pas une Marseillaise, on n'est pas de Marseillaise à Wimbledon, mais on est content de voir que quand même le tennis français s'illustre, parce que ben, chez les filles, vous savez, c'est le désastre. Et demain, en vous réveillant, lundi, vous verrez qu'au top 100, dans le classement, il y aura que deux bleus. Il y aura Diane Paris et Varvara Gracheva. Et encore, Gracheva, on sait qu'elle va malheureusement quitter le top 100 dans les semaines qui viennent, après sa grave blessure. Mais pour le tennis français, c'est catastrophique. Quand on voit qu'un petit pays, entre guillemets, un petit, comme la République tchèque, est capable de placer deux filles en finale à Wimbledon, et que voilà, bah, que ça fait mal, et que ça veut dire qu'on bosse pas très bien, et qu'on voit pas, on n'en voit pas le bout, surtout que la relève tarde à venir. Il y avait un tournoi à 14 ans à Wimbledon, il n'y avait pas une Française dans le tableau. Voilà. Bon, écoutez, je termine sur une triste note, mais il fallait que les choses soient dites, et malheureusement, on est les premiers malheureux, quoi. Malheureux pour devoir que le tennis français ne pèse plus sur la planète monde. Je vous dis bye bye. C'était un plaisir pendant ces 15 jours, toujours un régal de venir ici. J'ai rarement connu des conditions atmosphériques aussi belles, aussi chaudes. On a gardé le Bermuda pendant 15 jours, ça, y a pas de doute là-dessus, mais finalement ils ont des toits, mais ça sert à rien sauf pour leur night session. Ciao ciao, à bientôt, à l'an prochain, et petite agresse open, ciao.